jour chez Lidl. En ce moment, le kilo de courgettes est à 1,39€ et même à 97 centimes avec Lidl Plus. On peut dire qu'elles en jettent, ces courgettes. Et pour nous, c'est ratatouille.
97 centimes le kilo de courgettes chez Lidl avec Lidl Plus. Là, je suis vert. On est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. Catégorie 1, origine France. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr.
Bienvenue sur Sud Radio, il est 18h.
Parlons vrai.
Le journal avec Elsa Ruot. Bonsoir Elsa.
Bonsoir, bonsoir à tous. La liberté, l'art ou encore la vérité, voilà les grandes thématiques de ce bac philo 2025. Reportage devant un lycée toulousain dès le début de ce journal. L'autre titre ce soir, c'est l'offensive d'Israël qui continue en Iran. Des bombardements sont en cours sur Téhéran. On verra avec un spécialiste les capacités militaires de chaque pays après 4 jours de conflit. Et puis on évoquera aussi ces stands israéliens fermés aujourd'hui sur le salon du Bourget. Conséquence de la situation à Gaza, justifie le Premier ministre. Elle est l'une des plus redoutées par les candidats. Ce matin, près de 530 000 élèves avaient rendez-vous avec la philo. Première des épreuves organisées toute la semaine. Et quelle que soit la filière, les candidats avaient le choix entre 2 sujets de dissertation ou un commentaire de texte. Arthur Rib a rencontré ce midi plusieurs élèves à la sortie de leur premier examen au lycée Rive Gauche à Toulouse. Reportage.
Notre avenir dépend-il de la technique? C'est la question à laquelle a répondu Charlie, élève en terminale générale. 3 heures d'épreuve et 4 pages plus tard, le lycéen n'est pas très confiant.
J'aurais dû peut-être un peu plus réviser. J'avais oublié que c'était coefficient. Ouais, bon, ça va peut-être un peu compter dans la moyenne du bac, mais c'est pas grave. On va se rattraper sur les autres spés.
Même constat pour Marwan, en filière technologique, qui a choisi le sujet « Sommes-nous libres en toutes circonstances ? Soit ça passe, soit ça casse. »
J'ai vraiment dit quelque chose qui n'avait rien à voir. Je sais pas, en fait, soit c'est du hors-sujet, soit je suis vraiment un génie.
D'autres sortent du lycée plus serein, comme Audrey, fiche de révision à la main.
Bah, j'ai cité Descartes, je pense, donc je suis. J'ai cité Spinoza, qui dit que les hommes sont pas vraiment libres, mais qui sont libres à cause des causes extérieures.
Les bacheliers devront maintenant s'armer de patience pour connaître leurs notes. Les résultats seront publiés le 4 juillet. Et comme le dit l'écrivain François Rabelais, tout vient à point, à qui sait attendre.
Et les choses sérieuses ne font que commencer. À partir de demain et jusqu'à jeudi, les candidats au bac ont rendez-vous avec les épreuves de spécialité, les matières coefficient 16, où il vaut mieux avoir bien révisé. Après le Var, autour de l'Hérault d'être touché par le chikungunya, c'est le 2e cas autochtone en France. Une personne qui n'avait pas voyagé dans une zone infestée a contracté le virus. Une 60aine de cas importés du chikungunya avaient déjà été détectés en métropole depuis début mai. À La Réunion, la maladie a contaminé près de 200 000 personnes. À la une également, l'escalade entre Israël et l'Iran. Les habitants d'un quartier de Téhéran appelés à évacuer par l'armée israélienne cet après-midi. De fortes explosions sont entendues dans l'ouest de la capitale. La télévision d'État aurait été touchée. De son côté, l'Iran intime à tous les habitants de Tel Aviv de quitter la ville immédiatement. Les gardiens de la révolution se disent prêts à une guerre longue et totale. Une déclaration en décalage avec les capacités militaires iraniennes, comme l'explique le général Jérôme Pellistrandi. Il est rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
Les bombardements israéliens sont très efficaces. L'attrition des moyens militaires iraniens est assez rapide au regard de l'intensité des frappes israéliennes qui s'appuient sur un énorme travail de renseignement. Pour Téhéran, c'est une situation qui est très difficile sur le plan militaire. On estime que les Iraniens avaient, avant le début de la guerre, environ 2000 missiles balistiques, dans la mesure où ils en auraient consommé à peu près un quart, et il leur reste de quoi continuer à frapper pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, mais peut-être pas avec la même intensité que ces jours derniers.
Et ce conflit sera évoqué au Canada où le G7 démarre ce lundi. Les grandes puissances se réunissent pendant 3 jours avec plusieurs pays invités. Il sera aussi question de la guerre commerciale lancée par les États-Unis et de la situation dans la bande de Gaza. Et alors que les frappes continuent sur l'enclave palestinienne, cette guerre s'invite aussi au salon du Bourget. Le rendez-vous mondial de l'aéronautique a ouvert ses portes ce matin, mais plusieurs stands israéliens sont restés fermés, ce qui présentait des armements offensifs. Décision de dernière minute de la France. Le Premier ministre François Bayrou s'en est expliqué tout à l'heure sur place. Écoutez.
Étant donné la situation dans la région, les tensions extrêmes, étant donné les choix diplomatiques de la France, notamment très grand souci à l'égard de Gaza, nous ne pouvions pas ne pas montrer qu'il y avait une certaine distance qui faisait que pensions pas acceptables que des armements offensifs soient dans un salon comme cela. Et comme ces armements offensifs n'ont pas été retirés, eh bien on a provisoirement, j'espère, fermé les stands.
Et ces fermetures sont vivement critiquées par Israël. Le gouvernement dénonce une décision scandaleuse et sans précédent. Le Salon du Bourget, lui, accueille 4600 stands venus d'une cinquantaine de pays et 300 000 visiteurs sont attendus sur place jusqu'à dimanche. Enfin, pas de médaille française aujourd'hui aux Mondiaux de judo. Les trois Français en lice ont été rapidement sortis. Le clan tricolore contrôle, on le rappelle, trois médailles dans ce championnat du monde en Hongrie, notamment un titre décroché hier par Johan Benjamin Gaba. C'est la fin de ce journal sur Sud Radio. Très bon début de soirée.
Merci à vous, Elsa Ruot.
La météo Sud Radio.
Bonsoir, Rémi André.
Bonsoir, Philippe.
Il fait beau et chaud.
Oui, eh bien, effectivement, vous pouvez faire l'inverse si vous voulez, puisque vous aurez de la chaleur demain, avec 2 à 3 degrés de plus qu'aujourd'hui, mais ce ne sera pas encore le maximum de la semaine. Donc demain, on profitera d'une matinée un petit peu fraîche, on va se rafraîchir, notamment sur le nord-est, avec des températures qui pourront descendre aux alentours de 10 à 14 degrés. Mais cette fraîcheur est toute relative, hein, c'est vraiment très estival, avec donc déjà dans l'après-midi, des températures qui vont vite grimper, températures qui pourront facilement atteindre les 29 à 30 degrés, sur la moitié nord, jusqu'à 30 degrés sur le bassin parisien, 28 degrés à Rennes, 27 degrés à Strasbourg, puis au sud, là il fera plus chaud, 31 à 32 degrés entre Toulouse et Bordeaux, 32 à 34 degrés vers la Méditerranée, entre Nîmes et Perpignan, mais là vers la Méditerranée, demain le vent va faiblir. Sur la Corse, on verra tout de même quelques nuages l'après-midi qui, sur le relief, pourraient donner quelques ondées, ainsi que sur les Alpes du Sud, mais globalement, une belle journée ensoleillée, bien estivale. Il commencera à faire un petit peu plus chaud à partir de mercredi.
Merci beaucoup Rémi André.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix comme tous les jours de 17h à 19h avec Philippe Bilger autour de cette table, Françoise Degois, François Hurel, président de l'Union des Entrepreneurs, et vous au 0 826 300 300, et vous nous laissez des messages avec Philippe David, on les écoute bien
oui,
entendu.
Bonjour Eric de Moselle, j'écoutais votre invité qui parlait de la fin du numerus clausus. Alors effectivement c'est une excellente idée, on l'attendait depuis longtemps. Le seul problème c'est que ça va pas se passer tout de suite, on va pas en voir les bénéfices tout de suite. Il faudra au minimum 11 ans avant de former un médecin, peut-être 14-15 ans avant de former un spécialiste, et donc ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps avant effectivement qu'on en voit les bénéfices, les conséquences. Merci, bonne journée.
C'est pas faux, hein, Philippe.
C'est même tout à fait vrai. Temps, former un médecin, construire une prison, ça prend du temps, tout ça. Et c'est pour ça qu'il est inadmissible d'avoir retardé les inspirations bénéfiques.
Oui, enfin le numerus clausus a été aussi un problème des médecins eux-mêmes, hein, qui ont aussi,
c'est les syndicats de médecins qui l'ont
qui
demandé.
Ont tout bloqué parce
en 71,
voulaient,
c'est pas
bien
récent.
Sûr, parce qu'ils ne voulaient absolument pas partager la clientèle. Mais par rapport au temps, moi je trouve que c'est complètement tombé à l'eau parce que Bayrou n'en a rien fait. Mais je pense qu'un commissariat au plan, malgré le nom post-soviétique que ça pouvait avoir, c'est quand même très précieux. C'est un commissariat au plan pour comment dirais-je, planifier sur 10, 15, 20, 30 ans par rapport aux prisons, etc. C'est vraiment fondamental, à mon avis.
François Hurel.
Bah, la planification, ça a du sens. Et quand on n'en a pas, ça n'aboutit souvent qu'à l'addition des égoïsmes de chacun. Et ben ça, c'est la démonstration.
C'est vrai.
Pile poil. C'est exactement ça. Les corporatismes qui effectivement prennent le pas
sur une vraie planification politique. Sur, pour revenir sur le numerus clausus.
Mais c'est un problème effectivement, enfin, de corporatisme. Il faut se souvenir quand même que le révolutionnaire de 1789 ne demandait pas de pain. Il disait juste que Dieu nous garde de l'équité de nos parlements. Il luttait contre les corporatismes. Et ça, malheureusement, on a fait la révolution. Eh ben ils sont revenus aussitôt après parce que les Français adorent la norme et adorent les corporatismes.
Oui, mais ils avaient aussi
c'est comme
la révolution.
Herbes, ça.
Bon,
ça repousse toujours. Voilà. Merci en tout cas. Allez, dans un instant le coup de gueule de Philippe David, mon cher Philippe.
Je pense que le prochain livre de François Bayrou pourrait s'appeler Le masochisme pour les nuls.
Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Cet été, vous allez rayonner. Préparez votre peau dès les premières expositions, sublimez votre bronzage et gardez un teint allé plus longtemps. Manaï Solaire, un complexe unique d'actifs dans une gélule végétale pour un teint naturellement ensoleillé et une peau éclatante de beauté. Manaï Solaire, un produit VitaVea. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Sud Radio à Chalon-sur-Saône en DAB+.
Sud Radio.
Abîmés, déchirés, vos baskets peuvent encore marcher. Il suffit de les faire réparer par un réparateur labellisé. Profitez du bonus réparation jusqu'à 25 euros déduits du montant à payer. C'est bon pour votre porte-monnaie.
Retrouvez les réparateurs labellisés proches du lieu où vous habitez. Infos et conditions nécessaires sur bonusreparation.fr. Refashion, changeons notre monde durablement.
Allô ? Faire une pub 1-2-3 pare-brise ? Bah j'ai écrit un super avis Google, c'est déjà pas mal, non ? Oui, j'ai eu 200 euros en carte cadeau pour mon changement de pare-brise. Et je suis pas comédien. Il y a 52 000 avis et 4,9 étoiles sur Google. Demandez à quelqu'un d'autre.
1-2-3 pare-brise, on n'a pas les meilleurs comédiens, mais on a les meilleures notes Google dans la catégorie vitrage auto. Conditions sur 1-2-3-pare-brise.fr.
1-2-3 pare-brise.
À tous ceux qui se retrouvent entre potes quand c'est soir de match, mais faites pas trop de bruit, il y a la petite qui dort à côté. Et à ceux qui vont devoir apprendre à crier sur l'arbitre, mais en chuchotant.
Mais la faute là ! Carton, monsieur l'arbitre, carton, monsieur l'arbitre !
Oh. Dès mardi, Intermarché vous offre 80% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 juin, des 30 euros d'achat et dans la limite de 40 euros, modalité sur intermarché.com.
Ford Pro.
Allez patron, j'y vais.
Attendez.
Oui.
Vous êtes branché, Benodier.
Ah bon, vous trouvez?
Mais non.
C'est vrai que je travaille mon style.
Non, le câble, c'est électrique. C'est le nouveau e-Transit Custom, Benodier.
D'accord, donc c'est nouveau.
Bah, oui.
Pendant les jours plus productifs Ford Pro, profitez de jusqu'à 4696 euros sur le nouveau e-Transit Custom 100% électrique avec la prime CEE. Ford Pro. Prime CEE en vigueur pour personnes morales éligibles. Voir conditions d'éligibilité sur Ford.fr.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile Doménibus.
Les vraies voix autour de cette table, mes amis, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs, et Philippe David, bien entendu. Et pourquoi je dis Philippe David ? Parce que c'est son heure.
Les vraies voix Sud Radio.
Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris ? Parce que c'est là que se trouve le secrétariat général à la planification écologique et que la nomination du nouveau secrétaire général m'a quelque peu surpris. Alors tout d'abord, on se demande à quoi sert, dans un pays d'économie de marché, on va pas être d'accord, vous les propos tenus à l'instant, un secrétariat général à la planification écologique, le Gosplan ou plan quinquennal, étant une réminiscence de l'ex-URSS, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas brillé par ses résultats économiques ni écologiques. Ensuite, à quoi bon nommer des personnes dans un énième comité théodule qui ne sert strictement à rien, sauf à pondre des textes destinés à enquiquiner le monde au nom de l'écologie, à un moment où on cherche des dizaines de milliards. Mais c'est vrai, la baisse des dépenses n'est envisagée en France que pour les chômeurs et les retraités, pas question de toucher aux machins qui permettent de planquer des copains. Enfin, l'heureux dominé au poste, Augustin Rougier, n'est pas la personne la plus neutre politiquement, a fortiori pour occuper un tel poste. Il a en effet été délégué général du parti Les Écologistes et ex-directeur de campagne adjoint d'Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Bref, une personne issue d'un parti pour occuper un secrétariat général, pourquoi pas, mais je vous laisse imaginer le tollé si, pour diriger un secrétariat général à l'immigration, on nommait l'ancien directeur de cabinet d'Éric Zemmour chez Reconquête. On aurait déjà les cris d'orfraie demandant la neutralité des personnalités nommées à ce type de poste, mais, comme d'habitude, les indignations sont encore et toujours à géométrie variable. Enfin, cerise sur le gâteau, Augustin Rougier est le fils de Marielle de Sarnez qui, pendant des années, a été la plus proche parmi les proches de François Bayrou au Modem. On voudrait se faire accuser de népotisme qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Même des personnes proches de la majorité sont tombées de l'armoire. Brice Couturier tweetant « Ils sont dingues, ça va mal finir » en voyant cette nomination. Je me demandais si c'était de la provocation ou de l'inconscience et je me demande après pure réflexion si ce ne sont pas les deux à la fois et si certains ne donnent vraiment pas en se délectant les verges pour se faire battre.
Comment dire ? J'ai souvent abusé, moi, de ce type d'indignation. Il m'est arrivé trop souvent de dénoncer des nominations parce qu'elles apparaissaient choquantes. Mm-hmm. Je ne suis pas persuadé que là, elle l'est. Alors, il a été choisi, il paraît qu'il est compétent. Certes, c'est le fils d'une personnalité qui a été extrêmement proche de François Bayrou. Il y avait d'autres candidats, apparemment c'est le meilleur. Je n'en sais pas plus.
Oui, oui, il a évidemment les compétences. Après, je pense qu'il y a une forme, pas de provocation, mais d'inconscience, ou en tout cas de certitude qu'on va passer entre les gouttes, non, en réalité.
Il faut être fou, qu'on
est dans un moment.
Comme l'a dit Brice Couturier,
hein. Oui, qu'on est dans un moment. Vous savez, par exemple, provocation, non. Moi, j'ai le souvenir de Thomas Hollande, vous savez, qui adore la politique. Vraiment, il est avocat aujourd'hui, hein. Il est avocat plutôt social, voilà. Mais il adore la politique. Et j'ai le souvenir de François Hollande, que je connais bien, qui lui avait dit, ça va être compliqué que tu fasses de la politique tant que je suis président, parce que il y a un moment donné, même si tu as le talent, par exemple, pour être député, etc., ça va être compliqué avec ton père président. Et moi, je trouve ça assez sain, en réalité. C'est-à-dire que même s'il a la compétence, en réalité, peut-être qu'il aurait fallu l'écarter pour s'éviter encore un malaise démocratique, en fait.
François Hurel.
Je partage absolument totalement. Je n'ai rien à ajouter.
Rien à ajouter, très bien, vous restez avec nous, puisque Félix
vous
est là,
et là, lui, vous aurez un bon choses. Point, François.
Alors, vraiment, franchement, moi, j'ai rien à ajouter.
Les vraies voix Sud Radio.
Et l'info en plus, Félix Mathieu, c'est une scène impressionnante. La télévision iranienne a été bombardée en plein direct par l'armée israélienne.
Oui, à l'antenne, tout à l'heure, une présentatrice voilée en studio montre sur un écran derrière elle des images des bombardements israéliens sur l'Iran. Puis, tandis que retentissent des premiers bruits de bombardement qui semblent toucher le bâtiment, elle réagit d'abord en haranguant les téléspectateurs.
خیلی متشکر از این که با ما همراه هستید آنچه که ملاحظه می کنید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیماست آنچه که ملاحظه کردید الله اکبر الله اکبر الله اکبر مردم شریف ایران.
Puis à un moment, la lumière et les écrans s'éteignent dans le studio au moment justement d'un bombardement plus important qui va provoquer l'interruption de la télé iranienne.
فضای غبارآلود استودیو.
Et là, la présentatrice finit par sortir du champ. L'image n'est pas coupée immédiatement, sans doute pour se mettre à l'abri. La télévision d'État iranienne a ensuite, quelques minutes après, coupé ses programmes avant de les reprendre quelques minutes après. Mais la séquence montre cette stratégie de déstabilisation du régime en visant des lieux clés, évidemment, au-delà des cibles militaires ou nucléaires, lieux de pouvoir politique ou économique, des postes de police et donc les médias, la télévision. Donald Trump, en tout cas de son côté, a une nouvelle fois appelé l'Iran il y a quelques instants à négocier avant qu'il ne soit trop tard. L'Iran n'est pas en train de gagner cette guerre, a ajouté le président des États-Unis.
Philippe Bilger.
Oui, c'est un sujet tragique. D'abord, elle est courageuse, cette présentatrice iranienne, elle n'a pas peur, apparemment. Et ensuite, Donald Trump est tout de même peu à peu réduit à donner simplement des avertissements. Quand je pense que c'était un matamor qui était capable de changer la vie internationale, et en définitive, il fait beaucoup de recul.
De commentaires.
C'est ce qu'on avait dit et qu'on pouvait pressentir. Après, la réalité, c'est que Israël peut pas mener tout ça. Alors c'est bien sûr le Mossad qui a énormément préparé le terrain,
mais ils
peuvent pas mener ça sans l'aide de toute façon des Américains. Donc la logistique américaine, elle est quand même là pour les aider, je pense.
Mais c'est la vraie question, comment se finira cette guerre?
Après, vous prenez tout de suite les médias. Vous savez, par exemple, que Radio France, les gens peut-être l'ignorent, mais la Maison Ronde, ce qu'on appelle la Maison Ronde, eh bien, Radio France, vous avez des tunnels souterrains, vous les avez peut-être déjà visités, c'est très impressionnant. Et comme c'était la volonté du général de Gaulle, comme cette maison de la radio a été construite au moment de la guerre froide, en cas d'attaque, eh bien, vous avez en plus ça des gens qui sont serfiles, et vous descendez dans les studios, au sous-sol, avec c'est anti-atomique. La radio peut continuer à émettre, vous avez des lits de camp, vous pouvez survivre sous les sous-sols de Radio France.
Sachez-le. Incroyable.
Eh bien, merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Philippe Bilger, on parle de quoi avec vous?
On va parler un peu de ce qu'a dit Clémentine Autain ce matin.
Ouais. Elle a dit quoi, par exemple?
Elle a dit que le danger fasciste, bien sûr, était à l'extrême droite, et en même temps, elle nous présente comme une espérance l'union de la gauche.
Ah, très bien. Françoise Degoy.
Mais écoutez, des manifs maintenant, désormais, à Barcelone, notamment à Lisbonne, manifs contre le tourisme. C'est dingue, mais c'est vrai.
Et avec vous, François Hurel?
Coup de gueule contre la simplification administrative qui a toujours été promise et qui n'arrive jamais. Et je trouve que ministre après ministre, on nous parle beaucoup de simplification. Je vous donnerai quelques chiffres, ils sont édifiants.
Et plus ça va, plus c'est compliqué.
Ah oui, on en parle dans un instant. Plus c'est compliqué.
Tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
C'est Valérie Expert. On se retrouve demain dans le 10h midi de Sud Radio. On parlera médias avec Gilles Gansman et nos invités. Et ensuite, nous débattrons pour tenter de nous mettre d'accord. À demain, 10h sur Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Leclerc, bonjour.
Allô, oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis inquiet.
Ah bon, mais qu'est-ce qui vous arrive?
Ben voilà, j'adore les yaourts Père de Lait, alors je vous en ai pris 2 packs. Mais là, j'en vois 3 dans mon frigo. Est-ce que c'est normal?
Oui, oui, c'est normal. C'est Leclerc. Car du 17 au 28 juin, pour l'achat de 2 packs de 4 pots de Père de Lait vanille, le 3e est offert.
Ah, vous m'avez rassuré.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Lait Origine France, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Chez Direct Assurance, économisez en moyenne 310 euros sur vos assurances auto et habitation. Direct Assurance, bien assuré, direct réglé.
Phare de France. Retrouvez les plus belles lumières de nos côtes chez votre marchand de journaux. Numéro 1, le phare de...
C'est pas parce que c'est direct réglé qu'on doit direct changer de pub.
Intermédiaire d'assurance immatriculé à Lorias. Économie moyenne de 250 euros sur la formule auto de risque Ipsos 2022 et 60 euros sur l'assurance habitation Ipsos 2023. Conditions sur direct-assurance.fr.
Carrefour. Chez Carrefour, pour 2 boîtes de glace nuit achetées, la 3e est offerte. Et c'est valable sur toutes les boîtes de glace nuit. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'au 23 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Au rayon surgelé, selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Claire, ce qu'elle aime dans la vie, c'est le verre et ce qui est offert. En fait, ce qu'elle aime dans la vie, c'est nous, Engie. Et oui, Claire, en ce moment et jusqu'au 12 septembre 2025, Engie vous offre 100 euros pour la souscription d'un nouveau contrat d'électricité ELEC Référence 3 ans. Et bien sûr, c'est une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. C'est pas super, ça, Claire? Appelez le 3443, service et appel gratuit. Voir les offres électricité éligibles et conditions de l'offre sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Avec Philippe David et on est ensemble jusqu'à 19h, ça va cher Philippe?
Très bien, et vous Cécile?
David, bien entendu, tout va bien avec nos vraies voix du jour autour de cette table. Philippe Bilger, Françoise Degois, François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Et tout de suite, notre cher tour de table de l'actu des vraies voix.
Mais on est chez les fous là.
Vous avez 2 méthodes de pompage.
Ah d'accord.
Vous pompez la chaleur qui est dégagée.
Ah oui.
J'ai chaud, je ne me sens pas très bien.
Vous pompez, vous faites de la chaleur l'hiver.
Mais d'abord, il fait pas si froid que ça.
Elle est en permanence, mal interprétée.
Le tour de table.
De l'actualité. Vous en dites des bêtises, hein, Philippe, les Philips.
Non, moi j'expliquais Philips. Comment fonctionnait une pompe à chaleur.
Il prétendait cacher son vif derrière. Non, les explications techniques.
Mais c'est incroyable.
C'est fou.
Mais en fait, votre esprit est toujours tourné vers le Cap d'Agde.
Ma chère Françoise, toujours.
Quand on
prend certains extraits qui vous sont imputables.
Jamais c'est des histoires de fesses, hein, moi.
Moi, il y en a une un petit peu.
Jamais. C'est toujours des insultes, en revanche.
Vous concernez. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Ouais,
je dois tout entendre.
Un jour, on fera une diffusion de jingles, ils sont extraordinaires.
On fera une émission à partir de minuit, ce sera bien, on pourra tout dire.
Non, mais la mauvaise foi de Philippe David, c'est que quand Philippe Bilger n'est pas sur ce terrain-là, il lui crée une déviation pour l'emmener sur ce terrain-là, c'est absolument. Ça
c'est ce qu'on appelle créer des ouvertures au football.
Oui, mais vous êtes... Philippe David, vous êtes un maléfique.
Oh, ben, je vous en prie.
Maléfique, c'est très bien.
Maléfique, je crois que je suis le diable avec sa fourche.
Oui, vous êtes le bien.
Ah, vous avez oublié de dire avec ça que c'est marrant.
Bah, excusez-moi, je n'y ai pas pensé, moi, contrairement à vous.
Non.
Oh, je vous jure.
Avec ses fourches à cordes.
Droit dans les yeux.
Ouais,
s'il ne pense pas, c'est que ça ne doit pas être très violent. Enfin, bref. Allez, Philippe Bilger. Vous allez évoquer.
Ah oui,
Clémentine Autain.
J'aime beaucoup Clémentine Autain, que j'ai la chance que j'ai pu connaître sur le plan personnel, amical. Ah. J'avais beaucoup apprécié le livre qu'elle avait écrit à la suite d'un viol qu'elle avait subi. Et ce que j'aimais, c'est qu'elle ne faisait pas dans la politique du pire, très courageuse. Mais ce qu'elle a dit ce matin m'a frappé parce que bien sûr, elle considère d'abord que l'Iran a le droit de d'invoquer le droit international, et Françoise a dit ce qu'il fallait en penser tout à l'heure. Deuxième élément, elle croit nous emballer sur le plan civique en disant à la fois que l'extrême droite aujourd'hui en France est une menace suprême et que de l'autre côté, pour nous consoler, elle nous promet une union de la gauche qui nous procurerait du bonheur. Je pense que ce double, cette chaîne avec deux bouts contradictoires ne sont plus de nature aujourd'hui à plaire aux citoyens français.
Françoise de Gaulle.
Non, je pense que je suis pas d'accord du tout avec vous. Je pense que c'est ça le duel gauche-droite va revenir. C'est la fin du macronisme puisque Emmanuel Macron se représente pas. Donc le en même temps disparaît parce qu'on sait tous que c'était finalement de la poudre de perlimpinpin. Le duel gauche-droite va revenir. Et je trouve ça assez sain. Vous pensez que la gauche c'est l'enfer et la gauche nous on pense que c'est les jours heureux et que c'est la droite l'enfer. Mais d'une certaine manière c'est formidable parce que on revient si vous voulez au débat idéologique de vision de société. Je trouve ça très intéressant. En réalité, tout a été atténué et redonné, totalement euphémisé depuis 8 ans. Et regardez le résultat, tout le monde est cul par-dessus tête parce que cet en même temps, finalement, ne reposait que sur une personne, Emmanuel Macron. Mais désormais, vous voyez tout à fait la gauche et la droite qui vont se refaire face avec, je parle même pas d'extrême droite, je parle de Bruno Retailleau, vous aurez ou Hollande ou Olivier Faure ou François Ruffin en face, et on va avoir un vrai combat idéologique. Et moi, ça me va très bien.
Excusez-moi, vous enterrez déjà Édouard Philippe et Gabriel Attal, qui ont quand même quelques ambitions présidentielles.
Non, mais je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, en tant que figure de droite, Édouard Philippe se considère pas tout à fait comme ça. Il se considère comme l'héritier du macronisme. Je parlais droite, gauche, extrême droite, Bardella ou Le Pen, extrême gauche, Mélenchon. Donc, je trouve ça, ce qui est en train de se passer, en fait.
François Hurel.
Alors, moi, ce que je trouve ce qui est malsain, c'est que le débat se cristallise sur les deux extrêmes. Et ce que je trouve extrêmement... Alors, je suis très favorable à un débat droite-gauche, parce que c'est des vraies visions de société voilà. Qui peuvent être un peu différentes. Elles sont pas si éloignées que ça, et on vit dans une société pacifiée. Ce qui me gêne, c'est le débat extrême-droite, extrême-gauche, qui nous promet une société qui n'est plus pacifiée.
Oui, mais
qui
n'est plus pacifiée.
Et moi, je ne supporte pas ça. Enfin, non, mais moi, ça me révolte.
Excusez-moi, mais lors de la dernière présidentielle, la candidate de la droite traditionnelle a fait 4%, la candidate de la gauche traditionnelle, 1,75%.
Bien sûr, et Jean-Luc Mélenchon... de vote utile en donc, réalité, c'est-à-dire que ça
le macronisme disparaissant, oui, peut-être, parce que je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'il va émerger une social-démocratie, parce que finalement, je crois vraiment à cette démarche. Je crois vraiment à la social-démocratie à l'allemande. Aussi. Mais le problème, c'est que on n'est absolument pas capable aujourd'hui. Et ce qui me fascine, c'est que un pays qui a voté pour une candidate d'extrême droite. Est en train de nous donner une leçon de social-démocratie. L'Italie.
Oui, mais non, mais n'exagérez pas. Moi, je veux bien que Mélanie soit la quatrième merveille du monde.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais je dis qu'elle est suffisamment caméléon pour essayer de...
Bien sûr, elle ne fait pas la social-démocratie. Mélanie ne fait pas de la social-démocratie. Mais écoutez, moi, je vis entre la France et l'Italie depuis 10 ans. Et quand je dis que je vis, je ne fais pas semblant d'y aller en week-end. Donc arrêtez avec l'idée de Mélanie qui fait de la social-démocratie.
On peut tout de même le dire, ma chère.
Mais vous avez le droit de le dire, mais c'est pas vrai qu'elle est social-démocrate, Mélanie.
Elle ne l'est pas. Je dis qu'elle le fait.
Mais c'est pas vrai. Mais où est-ce que vous dites que c'est une société social-démocrate?
La régularisation de 500 000.
Excusez-moi, ça c'est pour les migrants. Mais vous avez vu sa théorie sur l'immigration. Vous avez vu sa théorie sur les droits. Mais non, mais
elle
sa pratique.
Elle théorise beaucoup, mais les actes ne le sont pas.
Elle a régularisé 500 000 uniquement pour pouvoir travailler dans les champs, notamment en Sicile, pour ramasser des.
Eh ben, c'est pas ça de la social-démocratie.
Mais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on raconte?
C'est la compréhension de l'économie.
Soyez assez. Non, mais soyez.
Juste la compréhension l'économie.
Giorgia Meloni est une conservatrice qui est en train de passer de l'extrême droite italienne au PPE, c'est-à-dire à la droite conservatrice, pour se recycler. Écoutez, vous n'allez pas vous faire maintenant de Meloni un leader de gauche.
Non.
Parlez-moi de Sanchez.
Je n'ai pas
alors.
Dit ça. Je dis juste
si
que je milite, moi, pour une politique qui pacifie et qui ne cherche pas systématiquement la confrontation des extrêmes. C'est ça qui me gêne.
On n'est pas obligé simplement d'aller sur la droite.
Ce serait une social-démocratie à la danoise.
Oui, ce qui nous intéresse. Bien sûr.
Non, non, c'est pas non, ça, c'est pas ça. Mais c'est, un, non c'est un débat apaisé. Moi, je suis.
Ah oui, vous aimez la gauche que quand elle s'appelle Manuel Valls.
De toute façon, il n'est pas très apaisé.
Vous avez raison, ma chère Françoise.
Chacun son tour.
Chacun. Non, non, mais non, mais c'est.
Non, mais c'est intéressant.
Moi, je souhaite un débat apaisé.
Oui, oui. Mais là, vous avez raison. Moi, je suis d'accord, François, avec ce que vous dites, et je pense qu'on va y arriver en réalité. Deux ans avant, on dit le problème des incarnations. Vous savez, l'incarnation en soi, ça n'existe pas. L'incarnation, c'est quand à un moment donné, quelqu'un, l'opinion change de regard sur vous. J'en parlais ce matin avec un ancien président de la République, qui est de mes amis, on parlait de ça. Je lui dis, à un moment donné, toi, tu sais, pendant 15 ans, tu as été premier secrétaire, on t'a traité de tous les noms. Framboise des Bois, Fraise des Bois, Monsieur 3%, Monsieur Petit Blague. Si tout le monde, vraiment, s'est foutu de toi alors que t'étais premier secrétaire. C'était t'étais le dernier des derniers. Il y avait les stars, DSK, Fabius, etc. Et toi, t'étais le minable. Et en réalité, celui qui est devenu président, c'est toi, parce qu'à un moment donné, les gens ont changé de regard sur toi. Et je pense que vraiment, l'incarnation, c'est ça. C'est à un moment donné l'opinion qui change. Donc je suis pas inquiète pour le manque d'incarnation à gauche, à droite, au centre. Pas du tout.
Voilà, merci, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, Françoise. François Hurel, coup de gueule sur la simplification administrative, toujours promise, mais on n'en voit pas le bout, enfin, en tout cas, le début.
C'est le choc de simplification de François Hollande.
Au choc de simplification, sur la simplification. Et puis, j'ai recherché un peu quelques chiffres. Le code de l'urbanisme, il a augmenté en 10 ans d'à peu près 750%. Le code de commerce, il a augmenté en moins de 10 ans de 645%. Le code général des impôts, il est resté relativement stable. Et le code de l'environnement, il a augmenté d'un peu plus de 800%. C'est absolument hallucinant.
C'est aberrant.
Et même censé ignorer la loi. Après ça, je me suis en fait intéressé, parce que ça me concerne, que devait connaître un entrepreneur qui a zéro salarié. J'ai fait les trois premiers codes, j'en suis déjà à 6000 lois. 6000 lois. Les anglo-saxons, au Canada, ils ont un code applicable à toutes ces petites entreprises qui fait 320 pages. C'est tout. Donc il y a vraiment une vraie question à se poser. Et je pense que la méthode qui en fait voudrait créer des lois de simplification, de grandes lois de simplification, on n'a même pas fait le bilan de ce que devait supporter un entrepreneur en fait aujourd'hui. Petit, moyen, en fait ou grand. Et le pire, c'est qu'on a créé maintenant autour de ça une économie de la simplification. Il y a des gens qui sont spécialistes de l'économie de la simplification et en réalité qui militent que pour la complexité. Parce que ça leur permet d'en vivre. Et ça, pour moi, c'est un vrai coup de gueule. Et ça suffit, parce qu'il faudra qu'à un moment donné, là pour le coup, on fasse une vraie nuit du 4 août.
Vous avez totalement raison, François, mais d'abord, les gens qui rêvent de simplification sont parfaitement de bonne foi. Tout le monde en parle. Deuxième élément, la France, je crois, a un raisonnement assez pervers, ou discutable plutôt. L'idée que pour correspondre à toutes les facettes du réel, il faut alourdir les textes, les enfler, alors qu'on pourrait penser l'inverse.
Répondre à tous les cas.
Les grandes orientations sont nécessaires, mais qu'elles suffisent et qu'on compte après sur l'intelligence et l'adaptabilité des citoyens.
Mais un exemple, pour créer en fait une entreprise, en France, il y a 27 statuts possibles. Aux États-Unis, 3. Au Canada, 2. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve avec 27 statuts? Effectivement, on adapte la loi à tous les cas de figure possibles.
Ah oui, là, je trouve ça
quand même assez insupportable.
Le statut d'entreprise,
c'est insupportable.
Je ne sais pas si c'est si insupportable que ça. Pardonnez-moi, je ne parle pas. Je ne sais pas si c'est si insupportable. Je ne pense pas que vous supporteriez, à un moment donné, la simplification à l'extrême des États-Unis. Parce que qui dit simplification?
Entre 2 et 27, il y a un gap.
Non, je suis d'accord, Cécile, avec ce que vous dites. Mais. Moi, la simplification est toujours un mot qui me fait très très peur. Et d'ailleurs, c'est ceux qui le manient le plus qui, après, sont les premiers à hurler. Je pense que ce qui fait la force aussi de ce pays, peut-être sa faiblesse, c'est la capacité justement à faire de la dentelle. Moi, ça me gêne pas qu'il y ait autant de statuts. Ça me gêne pas qu'il y ait autant de peines différentes si on parle de la justice. Ça me gêne pas. Parce que je pense que c'est aussi la garantie, si vous voulez, de quelque chose de plus égalité. Liberté, égalité, fraternité, je pense que ça correspond à la devise républicaine. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je vous suivrais volontiers si le régime de l'auto-entrepreneur qui était le plus simple
très simple.
Finalement, en fait, ne canalisait pas 90% de la création. Ça veut donc dire que la simplification répond à 90% des gens. Faut-il créer une petite dentelle pour les 10% qui restent? Sans doute oui. Sans doute oui.
Oui, mais vous avez une limite de plafond. Vous avez une limite de plafond.
Oui, mais justement, attendez. On a instauré une limite de plafond. Pourquoi? En faire une? Eh ben parce qu'on a voulu nourrir la complexité. Et les gens qui critiquent aujourd'hui le régime, ça fait 15 ans qu'ils le critiquent, ils auraient mieux fait de militer pour que leur statut ou leur situation devienne aussi simple que le régime de l'auto-entrepreneur. Je pense qu'ils y auraient gagné beaucoup plus.
Allez, Françoise de Gouin.
C'était beaucoup de gueule.
C'était très bien. Les manifs à Naples, Barcelone et à Lisbonne contre le surtourisme.
Je vais très vite parce que c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé, mais ça m'a frappé que ce week-end, les gens descendent dans la rue, y compris des hôteliers, alors là, c'est complètement dingue, pour dire on ne peut pas continuer.
Concurrence déloyale.
Ils criaient pas, même pas contre Airbnb. Ils crient les gens sur le fait que, en réalité, quand vous avez des zones qui deviennent surtouristiques, tout augmente. C'est-à-dire les restaurants augmentent, même ta baguette de pain augmente, et évidemment les loyers augmentent. Et en fait, la plupart des gens ne peuvent pas suivre parce que c'est pas parce que vous êtes dans une ville touristique que votre salaire dépend de la fréquentation touristique. Et donc, je pense qu'il y a un vrai mouvement. Alors, on l'a déjà vu évidemment en France avec joie, l'île de Bréa qui a déjà canalisé les calanques qui canalisent, etc. Le nombre de visiteurs. Mais je trouve ça quand même très intéressant de ce qui est en train de se passer, et j'entends ce que disent vraiment les habitants de ces villes. Barcelone, Naples c'est un enfer, hein, par exemple. Moi je j'aime pas trop Barcelone, en fait je m'en fiche un peu, mais Naples est une ville assez peu connue par rapport à Rome ou à Florence, et en réalité je vois Naples, et bien Naples les salaires sont très faibles, c'est l'Italie du Sud, et vous avez des armadas de touristes, et donc tout le monde augmente sur le port de Naples. Maintenant vous ne pouvez plus avoir un repas à moins de 20 ou 25 euros, et ça, l'Italien, le Napolitain, il ne peut pas suivre. Donc j'entends ce qui est dit, c'est intéressant.
Ouais. Philippe, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est qu'il y a des territoires qui meurent justement de ne pas avoir de touristes, pendant que d'autres se battent pour
l'instant. Moi j'ai l'impression qu'il y a plus, il va y avoir de moins en moins de territoires qui ne vont pas être conquis par le tourisme, c'est marrant. On avait notre auditrice qui a fait la Corrèze.
La Creuse, il n'y a pas de surtourisme en fait.
Non, mais vous rendez compte qu'il y a de plus en plus.
Ce sont des régions qui sont formidables.
Moi j'ai un copain qui habite à la Souterraine, il me dit, mais en fait il y a une augmentation. En fait, maintenant, on voit, c'est intéressant ce que vous dites, il y a de plus en plus de gens qui viennent en Creuse, alors que c'est le désert français.
On peut y aller tranquille.
Mais tant mieux.
On peut y aller tranquille pour y faire comme quoi ça. On salue la Creuse.
Non, mais je veux dire,
pour y développer, par exemple, une entreprise, par exemple.
C'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait un énorme paquebot, on sait pertinemment qu'il va déverser en une fois 6000 personnes pour une journée.
Venise, c'est l'enfer. Alors, Venise vient d'instaurer. Venise, c'est plus tenable. C'est dramatique. Venise vient d'instaurer 5 euros maintenant pour rentrer dans la ville.
Ah oui,
euros.
C'est ça.
Oui, mais est-ce que ça ralentit?
Ça ralentit un peu, à minima, mais pas beaucoup.
Donc il y a un vrai effet.
Non, il n'y a pas un vrai effet, il y a un petit effet minuscule de que dalle.
Merci mes amis pour ces sujets très intéressants. En tout cas, dans un instant, c'était le top départ ce matin du bac, ce matin, avec la philo. Les terminales ont donc réfléchi sur l'art, la liberté ou la vérité, Philippe.
Alors parlons vrai, est-ce que cette matière que seule ou presque la France enseigne au lycée vous paraît essentielle? Et à la question, la philosophie a-t-elle une raison d'être au baccalauréat? Vous dites oui à 67%, vous voulez réagir, le 0826-300-300.
Et on sera avec Gabriel Alperne qui sera avec nous dans quelques instants, docteur en philosophie, diplômé de l'École Normale Supérieure, auteur de Créer des ponts entre les mondes, une philosophie sur le terrain aux éditions Fayard. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle trouve ça important, en tout cas pour les bacheliers. Allez, à tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
J'écoute Sud Radio tous les jours et j'adore.
Sud Radio, parlons vrai.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Leclerc, bonjour.
Allô, oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis inquiet.
Ah bon, mais qu'est-ce qui vous arrive?
Bah voilà, j'adore les yaourts Père de Lait, alors je vous en ai pris deux packs. Mais là, j'en bois trois dans mon frigo. Est-ce que c'est normal?
Oui, c'est normal. C'est Leclerc. Car du 17 au 28 juin, pour l'achat de deux packs de quatre pots de Père de Lait vanille, le troisième est offert.
Ah, vous m'avez rassuré.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. La Origine France, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Sud Radio à Toulon, en DAB+.
Sud Radio.
On a tous ce copain, cette cousine, ce voisin qu'on admire parce qu'il donne son sang régulièrement. Et si c'était le moment pour vous d'en faire autant ? Oui, si là, tout de suite, vous l'appeliez pour lui proposer d'aller donner votre sang ensemble. En juin, tous unis par le don. Rendez-vous sur le site Don de sang de l'Établissement français du sang.
Sud Radio, c'est LA radio qui vous suit partout et aussi à la maison. Sur votre enceinte connectée, dites OK Google ou Alexa joue Sud Radio. Et pour des moments uniques, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr et vos réseaux sociaux préférés. Sud Radio, parlons vrai avec vous où que vous soyez.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger autour de cette table. Françoise Degois, François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs, et Philippe David, bien entendu. Et vous, au 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir, bien sûr, pour ce coup de projecteur des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Le coup d'envoi du baccalauréat. Terminus pour les terminales. Dans quelques jours, le lycée, c'est fini, à condition de décrocher son bac. Mais voilà, quand on tombe sur ce genre de sujet...
Le passé a-t-il plus de réalité que l'avenir ?
Oh non. Si ? Non. Yalta moins X plus 2 facteur de Eisenhower égale Austerlitz à la racine carrée de la ligne Maginot.
Si ? Je ne veux pas ce sujet non plus.
Vous avez un sujet préféré ?
Le foot !
La vie. Cette sale race !
Ça fait 4 heures !
Faut passer ton bac ! Faut passer ton bac,
Et dès 8h ce matin, coup d'envoi des épreuves du baccalauréat, les lycéens de terminale donc, ont donc bûché sur une dissertation et une explication de texte. La technique, la vérité, la liberté et l'art étaient au programme de cette épreuve de philosophie sans cesse remise en cause.
Alors parlons vrai. Est-ce que les cours de philo ont laissé des traces dans votre vie d'adulte ? Et à la question, la philosophie a-t-elle une raison d'être au baccalauréat ? Vous dites oui à 67%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300.
Et notre invité est avec nous, Gabriel Perne, docteur en philosophie, diplômé de l'École Normale Supérieure, auteur de Créer des ponts entre les mondes, une philosophie sur le terrain aux éditions Fayard. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Philippe Bilger, alors.
Bien sûr la que la philosophie a une raison d'être au baccalauréat. Et comment dire, là, en m'excusant de faire référence à une expérience personnelle, tout simplement parce que une fois qu'on est passionné par la philosophie dans le secondaire ou après, naturellement ça induit une certaine qualité de pensée tout au long de sa vie. Moi, j'ai toujours été passionné par la philosophie, même si j'ai cru avoir davantage l'esprit littéraire que philosophique. Mais ce qui me paraît central, et je le vois, pardon, avec cette présentation un peu narcissique de l'Institut de la Parole, je suis frappé de voir à quel point on voit immédiatement ceux qui ont fait de la philosophie ou ceux qui n'en ont pas fait. Ceux qui n'en ont pas fait ne sont plus capables, dans le monde d'aujourd'hui, de penser de manière non utilitaire mais gratuite. Et les autres, c'est fabuleux, ils peuvent penser de manière gratuite. Et je pense que ça vient très directement d'un apprentissage philosophique dans le scolaire.
Françoise Degois.
Oui, la philosophie, ça vous aide à penser le monde de toute façon, même si vous ne la comprenez pas immédiatement. Mais là, Philippe est en train de ranimer les grandes guerres entre les littéraires et les scientifiques. Alors qu'il y a beaucoup de scientifiques, d'ailleurs, qui sont très bons en philo, parce que, notamment sur la base du raisonnement. Mais pour ce qui est, ai-je envie de dire, moi je le vois avec le personnel politique, vous avez les politiques poétiques, et sont des esprits vraiment philosophiques qui réfléchissent, et puis les politiques tableau Excel. J'ai toujours dit et expliqué que nous n'entraînons pas une nation avec des tableaux Excel. On entraîne une nation avec une vision, avec des concepts. Moi, je suis dingue de politique et de philosophie. Et de philosophie politique, n'en parlons pas. C'est une passion, s'entraîner à la réflexion et ouvrir à chaque fois un peu plus son propre cœur, parce que finalement, ça sert à ça, la philosophie. Ça sert à devenir un être humain complet, qui est capable d'élargir son cœur à chaque instant, me semble-t-il.
François Hurel.
Moi, dans ma vie, j'ai dû faire de la philosophie de comptoir, en fait.
C'est pas grave, c'est vachement bien aussi.
Mais
c'est
elle est bien. Finalement, moi, à mes yeux, c'est une façon de développer son esprit critique, c'est une façon de s'interroger, c'est une façon de penser. Alors certes, elle est au contrepoint, peut-être, de la matière du français et puis de la philosophie, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que elle doit se développer, parce que tout ce qu'on se dit sur cette société de violence qui ne comprend plus rien, qui ne se parle plus,
qui travaille avec des écrans, qui passe son temps,
ben, finalement, la philosophie, c'est tout le contraire. C'est exactement le bonheur de discuter et d'échanger avec des gens qui pensent pas forcément comme vous. Et d'avoir un regard qui est un peu nouveau. C'est pour ça que j'ai fait des études en fait de droit. C'est parce que j'adorais le fait qu'il fallait être avocat de toutes les causes.
Et Gabriel Alpernet avec nous, docteur en philosophie.
Ça doit lui faire plaisir, en fait.
De l'École normale supérieure et auteur de ce livre, Créer des ponts entre les mondes, une philosophie sur le terrain aux éditions Fayard. Alors, voilà, vous avez des passionnés de philosophie autour de cette table. Qu'est-ce qui vous a plu déjà, vous, dans la philo?
Alors moi effectivement ça a été une vraie rencontre la philosophie d'ailleurs même bien avant la terminale puisque dès mes premiers cours de grec au début du collège je découvrais les dialogues de Platon et finalement moi qui me suis toujours posé un milliard de questions et bien quand on aime se poser un milliard de questions la philosophie est vraiment la discipline par excellence donc ça a été finalement une véritable vocation mais finalement ce que je trouve intéressant c'est que quand je rencontre les gens et qu'on parle philosophie la première chose que les gens me disent c'est leur note en philosophie. Alors, ça peut être un grand patron du CAC 40 ou alors un grand ministre ou voilà. Donc des gens voilà comme si finalement la note au bac de philo avait vraiment finalement traumatisé certains ou marqué d'autres, montrant par là que finalement la philosophie c'est pas une matière comme les autres. Voilà. Et je pense que finalement c'est peut-être un peu le drame de la philosophie en terminale. On en fait à la fois trop jeune et trop tard parce que finalement quand on est un petit enfant on se pose des questions très philosophiques et en même temps on est tellement immature en terminale et c'est bien des années après où finalement on se rend compte à quel point la question de la vérité, du bonheur, de l'amour, de la liberté sont des questions essentielles dans notre vie et on se dit attentif.
Alors il y en a certains qui sont pas matures très longtemps après la terminale. La parole à Philippe Bilger.
Vous ne pensez pas que la philosophie, d'abord, est-ce que vous ne considérez pas que la philosophie, à l'époque où on pouvait considérer, vous évoquez le grec, bien sûr, est-ce que la disparition des humanités, au sens où je l'entends, n'a pas été un déficit pour l'apprentissage philosophique? Et deuxième question, et pardon, je la finis vite. Est-ce que vous ne pensez pas que la spécificité de la philosophie, c'est d'avoir pour objet central la pensée et que ça la distingue radicalement de toutes les autres matières?
Alors, grande question, je vais répondre rapidement. Oui, bien sûr, effectivement, c'est vrai que la disparition des humanités et le grec, le latin, c'est effectivement quelque chose d'absolument terrible. Et ces mots-là, en tout cas, enfin la philosophie grecque, enfin la philosophie grecque a pu naître précisément grâce à la langue grecque. Donc c'est intéressant effectivement de pouvoir renouer avec les humanités. Et moi, je déplore justement le divorce croissant entre la technique et les humanités. Il est temps justement de réunir ces mondes. On voit bien avec toutes les questions posées par l'intelligence artificielle, où va l'humanité, qu'est-ce que l'être humain finalement aujourd'hui, ces questions-là vont devenir prépondérantes. Après, par rapport à la deuxième question sur la question de la pensée, je dirais que oui, bien sûr, la philosophie c'est la pensée, mais la pensée vide ou abstraite ou la pensée pour la pensée, je m'en méfie parce que moi je crois fondamentalement dans la philosophie pratique et appliquée. C'est vraiment ce que j'ai en tout cas voulu défendre comme conception de la philosophie dans mon livre Créer des ponts entre les mondes. Finalement, on a beaucoup trop distingué la pensée et l'action, la théorie et la pratique. Et de ce fait, malheureusement, on a des pensées absurdes et des actions qui sont myopes ou vides. Et donc finalement, il est temps de réconcilier justement ces mondes et si la philosophie veut être utile à la société, et elle doit l'être, eh bien, elle doit bien sortir parfois de ce monde un peu déconnecté du réel et affronter le réel, affronter le monde, et ne pas seulement être dans la pensée, mais être dans c'est quoi la question de l'entreprise aujourd'hui, c'est quoi la question du collectif, c'est quoi la question de la démocratie, des questions extrêmement concrètes, encore une fois, si elle veut pouvoir avoir un regard fécond.
Mais moi, je pense, Gabriel, qu'il y a quand même un engouement pour la philosophie. En réalité, il y a, moi, je vois les succès de Philosophie Magazine. Alors, bien sûr, c'est peut-être de la philosophie easy listening, mais en fait, on s'en fout. On a les interviews de Jean Kelevitch. On comprend très bien qu'est-ce que ça veut dire l'abstraction. On peut comprendre Kant. On peut comprendre Nietzsche, mais on peut aussi comprendre ce dont vous parlez, la philosophie du quotidien. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'avais découvert Histoire de la folie, bien sûr, de Michel Foucault, dans une émission de radio, et je trouve que la philosophie est de plus en plus prégnante, y compris dans les émissions de grande écoute. La preuve, nous sommes une émission de grande écoute, et en fait, on est en train de s'éclater à discuter avec vous, et je suis sûr que les auditeurs, dans leur bagnole, ils se disent, c'est super bien d'avoir une prof de philo, parce que, ah tiens, oui, ça, c'est vrai. Donc, est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a un engouement? Bien sûr, docteur en philosophie. Vous pensez pas qu'il y a quand même un engouement maintenant pour la philosophie, parce qu'on se heurte finalement aux grandes questions existentielles, on a fait le tour de la technique en fait.
Exactement, il y a un engouement et il faut s'en réjouir, et c'est ça ce que je trouve absolument extraordinaire avec la philosophie, c'est que contrairement à toutes les autres disciplines, on peut dire qu'il y a eu un progrès. Je veux dire, dans les mathématiques, il y a un progrès, dans toutes les sciences, il y a un progrès, mais finalement, en philosophie, il n'y a pas vraiment de progrès. Enfin, sur la question de la vérité, de la liberté ou du bonheur, est-ce qu'on est plus avancé que Aristote en son temps ou que Montaigne? Non, pas vraiment. Et c'est ça justement qui fait toute la beauté de la philosophie, c'est que finalement, l'amour, la liberté, le bonheur, le politique, enfin voilà, toutes ces questions-là, ce sont des questions universelles qui auront leur justesse et leur pertinence dans 50 ans ou dans 1000 ans. Même la question de la mort, même si on va peut-être la repenser avec le transhumanisme, mais en tout cas, toutes ces questions-là sont des questions atemporelles et universelles.
François Huret. Moi, j'ai une question à vous poser, deux questions. D'abord, ne croyez-vous pas que la philosophie se présente aujourd'hui trop comme une matière d'élite ? C'est des penseurs, ils vivent dans leur monde, et finalement, il est inaccessible pour beaucoup de gens, et elle est maltraitée. Elle est maltraitée parce qu'en fait, elle est trop élitiste, elle est trop à part. Et ma deuxième question était, vous avez à un moment donné parlé de, on n'a pas suffisamment la maturité pour pouvoir penser en fait effectivement au terminal. Je peux partager. N'empêche que la réflexion de la philosophie, elle doit naître jeune. Elle doit naître jeune parce que sinon, on la comprend plus jamais. Et j'ai quand même le sentiment qu'on devrait l'enseigner beaucoup plus tôt. Parce que derrière le mot de philosophie, il y a un mot que j'aime beaucoup qui s'appelle la tolérance. Oui. Et la tolérance de la pensée, ça doit s'enseigner très jeune. Donc, c'est la philosophie qu'on devrait enseigner en sixième.
C'est pas mal.
Pas l'enseigner au sens philosophique.
Commencer les prémices.
Faire comprendre qu'il y a une matière à penser.
Envoyer des petits inputs.
Gabriel Alpert.
Merci de me répondre.
Alors, merci beaucoup pour ces deux questions très, très intéressantes. Je réponds rapidement.
Parce que les autres étaient nuls.
Merci Gabriel Alpert. On était des gros nuls. Moi et
que des bonnes questions, c'est super.
Est-ce
que j'ai 3 points?
Vous avez 3 points. Je ne sais pas combien vous allez avoir au bac de philo, mais évidemment.
Allez-y, Gabriel.
Alors, sur la question de l'élitisme, oui. Oui, bien sûr, vous avez mille fois raison, et effectivement, et c'est vraiment ce que je dénonce dans mon livre, c'est que il y a vraiment un côté incompréhensible. Enfin, quand on lit un certain nombre de philosophes, oui, de fait, c'est une langue qui est pas forcément grand public. Quand on entend un certain nombre de philosophes, d'ailleurs, y compris contemporains, effectivement, c'est pas une langue grand public. Et ça, pour le coup, c'est un problème parce que c'est au-delà du mépris social, c'est presque un mépris humain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dommage parce que finalement, tout ce savoir, toute cette réflexion n'est pas mise à la portée du plus grand nombre. Et ça, pour le coup, effectivement, encore une fois, si le philosophe veut être utile à la cité, il va falloir qu'il descende du monde bien confortable des idées et qu'il puisse effectivement se mettre, tout en gardant évidemment sa hauteur de vue, mais en tout cas qu'il soit à même de pouvoir traduire ses travaux
dans la langue de
tout le monde. Ça, pour le coup, c'est vraiment essentiel.
Mais je cherche pas la bonne note, toi.
Alors,
allez-y, Gabriel.
Et la deuxième question.
Pardon, je fais ce que je dis parce que, par exemple, moi je me suis astreinte à cet exercice, j'ai traduit dans une bande dessinée ma thèse en philosophie, alors les 800 pages dans un format de BD.
Qu'est-ce que c'était la thèse ?
C'est vraiment génial.
Qu'est-ce que c'était la thèse ?
Ma thèse, c'était sur le thème pensée l'hybride. Voilà, sur la question de l'hybridation. Et j'en ai fait une bande dessinée, la fable du centaure, autour voilà, de l'histoire d'un petit centaure à qui il arrive plein d'aventures. Et finalement, c'est une bande dessinée pour jeunes, enfants et adolescents. Et finalement, c'est un merveilleux support. À partir de là, j'ai fait des ateliers philo dans un hôpital pour enfants malades, avec des enfants qui avaient entre 3 et 10 ans. Et justement, c'était génial parce que ça revient, je rejoins du coup la deuxième question que vous posiez, c'est que finalement, ces petits ateliers de philosophie pour des enfants et des jeunes adolescents, ça marchait très bien. C'est un bon support justement pour aborder ces questions. Je termine juste avec ça. L'année dernière, j'ai fait un atelier de philosophie pour des jeunes grecs avec l'Institut français en Grèce à Athènes. Et là, c'était génial parce que je leur ai demandé, quelle est la différence entre une plante et un animal, entre un animal et un être humain, un être humain et un robot. Et finalement, avec toutes ces petites questions, ils ont fait des dessins. C'était entre atelier philo et atelier de dessin. Et c'était génial parce que finalement, ils ont pu réfléchir à cette question finalement, où va notre humanité à l'ère des robots. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu et un devoir de la part des philosophes d'être grand public s'ils veulent être utiles à la cité, sinon la philosophie ne servira à rien. Et deuxièmement, il faudrait faire de la philosophie dès le plus jeune âge. Et tout au long de la vie.
Et exactement. Merci beaucoup Gabriel Alpert.
Ah, génial.
Vous êtes solaire.
Vous allez nous donner des cours un peu raboulés un peu ici.
Moi, j'ai toujours une question philosophique qui me tarabuste. Philippe Bilger est-il le Nietzsche des vraies voix?
Je t'en supplie.
Mais le problème, on comprend, ça n'est pas un philosophe, on ne le comprend pas, c'est un philosophe.
C'est une très belle phrase.
Entre Heidegger et Luc Ferry.
Gabriel Alpert, je vous incite, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Françoise, achetez ce livre, Créer des ponts entre les mondes, une philosophie sur le terrain, aux éditions Fayard. Voilà, et vous êtes la bienvenue quand vous voulez chez nous.
Celle-là, une vraie voix sublime. Hein.
Sublime. Oui, merci beaucoup.
Elle gagnerait le jeu.
On s'est buté, bien sûr. On va être éliminé tout de suite.
C'est les femmes.
J'adore le curseur de Philippe Bilger.
C'est ça. Dingue. Elle va pas gagner au quiche qui gilet, quand même.
C'est la vertu cardinale de l'émission pour Bilger. Désolé.
Dans un instant, on va parler engagement avec Philippe.
Absolument, oui. C'était le G500 citoyens jeudi. Nous y étions en émission à Lille. On va faire le bilan et on va avoir une belle association sur la sécurité sociale de l'alimentation.
Génial. On vous souhaite en tout cas un très joli moment. Et nous, on se retrouve demain à partir de 17h avec Philippe David. Passez une très belle soirée.
Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières, présente
Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet.
Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de l'immobilier. Je suis accompagné de Stéphane Dallier, président associé au sein du groupe Bacalan. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Thomas.
Stéphane, ce soir un sujet brûlant, la loi climat et ses conséquences sur le marché immobilier. Alors quels sont les logements qui risquent de devenir invendables dans les prochaines années? Stéphane, la loi climat impose de nouvelles contraintes aux propriétaires. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le sujet?
Absolument. La loi climat et résilience de 2021 prévoit, entre autres, l'interdiction progressive de la location des logements les plus énergivores. Aujourd'hui, classés F et G, selon le diagnostic de performance énergétique dont on entend beaucoup parler, Absolument. Le fameux DPE. Concrètement, depuis le 1er janvier 2025, il est devenu interdit de louer un logement classé G. Et cette interdiction s'étendra aux logements classés F en 2028 et E en 2034.
Et une question que tout le monde se pose quand même, qu'en est-il de la vente de ces logements?
Eh bien tout simplement, une interdiction, mais qui porte uniquement sur la location, pas sur la vente. Ces logements deviennent de moins en moins attractifs à cause du fait qu'on ne peut plus les louer. Et les acquéreurs potentiels anticipent les coûts de rénovation nécessaires pour se conformer aux normes énergétiques, ce qui entraîne une décote significative de ces biens. Selon une étude de Seloger, les biens classés G voient leur prix de vente diminuer de 14% par rapport à ceux classés D.
Oui, c'est pas neutre. Alors, quelles sont les solutions pour les propriétaires concernés?
La première étape est de réaliser un audit énergétique pour identifier les travaux nécessaires. Des aides financières, le fameux MaPrimeRénov' dont on a entendu parler depuis quelques années, sont disponibles pour accompagner les propriétaires dans la rénovation énergétique de leur logement. Mais il est essentiel d'agir rapidement pour éviter une perte de valeur du bien.
Allez, un dernier mot et un dernier conseil surtout pour nos auditeurs.
Eh bien, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne surtout pas sous-estimer l'importance des fameux DPE dans la valorisation de votre bien. Anticiper les réglementations à venir et investir dans la rénovation énergétique est non seulement bénéfique pour l'environnement, mais aussi pour la pérennité de votre patrimoine immobilier.
Merci Stéphane pour vos éclaircissements. On vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de l'immobilier. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end.
Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet.
Avec Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Donc là, si je fais un entretien chez vous, ça veut dire que...
Ça veut dire que vous repartez avec un an de garantie Toyota Relax.
Allez.
Un entretien est égal à un an de garantie, tout simplement. Même si vous êtes jamais venu chez nous.
Oh là là, 1 égale 1. Avec des maths comme ça, j'aurais eu 20 au bac.
Eh oui, un seul entretien dans notre réseau agréé Toyota suffit pour bénéficier d'un an de garantie Toyota Relax, même si votre véhicule est d'occasion.
Vous, vous êtes fort en maths ?
Ça va.
Toyota. Valable à l'issue de la garantie constructeur jusqu'au 10 ans ou 185 000 km de votre Toyota au premier dès 2h matin, voire conditions sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Sud Radio Monde.
101.9.
Sud Radio.
Carrefour. Chez Carrefour, pour deux boîtes de glace nuit achetées, la troisième est offerte. Et c'est valable sur toutes les boîtes de glace nuit. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'au 23 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Au rayon surgelé, selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio.